Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nin Nartri. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Pourquoi les nations échouent Prospérite, Puissance et Pauvreté, de Daron Acemoglu et James A. Robinson est un essai de économie politique et de histoire comparée qui cherche à expliquer les écarts persistants de richesse et de développement entre pays. Les auteurs contestent les explications dominantes qui invoquent surtout la géographie, le climat, la culture ou l'ignorance des dirigeants. Leur proposition centrale est que les trajectoires nationales dépendent avant tout des institutions. C'est-à-dire des règles formelles et informelles qui organisent le pouvoir politique, l'activité économique, la sécurité des droits et l'accès aux opportunités. Le livre construit une opposition structurante entre institutions inclusives qui élargissent la participation et protègent les droits et institutions extractives, qui concentrent pouvoir et ressources au bénéfice d'une élite, en s'appuyant sur de nombreux exemples historiques et contemporains. L'ouvrage vise autant à fournir un cadre de l'interprétation que à éclairer les conditions politiques qui rendent la prospérité durable ou, au contraire, fragile. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, institutions inclusives et institutions extractives, le cœur du livre repose sur une typologie simple mais féconde. Les institutions inclusives sont celles qui permettent à une grande partie de la population de participer à la vie économique et politique. Elles appuient sur un état relativement contraint par des règles, la protection des droits de propriété et l'application plus impartiale des lois, et des marchés plus ouverts où l'innovation et la mobilité sociale sont possibles. A l'inverse, les institutions extractives organisent la capture de la richesse par un groupe restreint. Elles limitent l'entrée dans certaines activités, restreignent les droits et utilisent souvent le pouvoir politique pour distribuer des rentes et bloquer la concurrence. Les auteurs insistent sur le fait qu'une économie ne peut pas être durablement prospère si l'architecture politique reste extractive, car les incitations à investir, entreprendre. Apprendre et innover y sont faibles ou risqueux. Cette grille de lecture permet de comparer des situations très différentes sans les réduire à des différences de culture ou de géographie. Elle propose surtout une explication du caractère auto-renforçant de la pauvreté, quand les élites ont intérêt à conserver des règles qui freinent la majorité. Deuxièmement, la politique comme moteur des trajectoires économiques. Pourquoi des institutions inclusives émergent-elles dans certains pays et pas dans d'autres? Le livre répond en replaçant l'économie dans la lutte pour le pouvoir. Les règles du jeu ne sont pas choisies par un planificateur neutre, elles résultent de conflits, de compromis et d'autres équilibres entre groupes sociaux. Quand le pouvoir est largement partagé ou contestable, il devient plus probable que des institutions favorables à une participation large s'installent. Quand une minorité parvient à verrouiller durablement l'État, elle peut imposer des institutions extractives, même si elles réduisent la prospérité globale. Les auteurs soulignent aussi que des réformes économiques isolées peuvent échouer si l'ordre politique reste inchangé. Une ouverture de marché, une privatisation ou une modernisation administrative peuvent être détournées en nouveaux mécanismes de rente, inversement. Des changements politiques, qui accroissent la responsabilité des gouvernants et la capacité d'action de la société, peuvent rendre possible des transformations économiques plus profondes. Le message central est que l'économie suit la politique, car les incitations et la sécurité des acteurs dépendent d'abord de la façon dont le pouvoir est distribué et contrôlé. Troisièmement, chemins historiques, dépendance au sentier et moments charnières, une autre idée structurante est la dépendance au sentier. Les institutions héritent du passé façonnent les choix présents, et il est difficile d'où en sortir parce que les groupes avantagés par l'ordre existant peuvent bloquer les changements. Le livre décrit des mécanismes de reproduction institutionnelle, parfois appelés cercles vertueux et cercles vicieux. Dans un cercle vertueux, des institutions plus inclusives renforcent la croissance, élargissent la classe moyenne et la participation, et consolident des règles plus impartiales. Dans un cercle vicieux, l'extraction nourrit la concentration du pouvoir qui renforce l'extraction. Les auteurs accordent cependant une place à la contingence historique. Des crises, des guerres, des innovations, des conflits internes ou des ruptures de coalition peuvent créer des moments charnières où les institutions deviennent plus malléables. Ces fenêtres ne garantissent pas une issue inclusive, mais elles rendent possible des bifurcations. Cette façon de raisonner évite une lecture déterministe. Elle explique pourquoi des sociétés proches par la langue ou la géographie peuvent diverger fortement, et pourquoi des changements rapides peuvent survenir lorsque des contraintes politiques se desserrent et que de nouvelles alliances se forment autour de règles du jeu différentes. Quatrièmement, destruction créatrice, innovation et peur de perdre le pouvoir, le livre met en avant le rôle de la destruction créatrice. L'idée que la croissance de long terme dépend de l'innovation qui remplace des technologies, des entreprises et des positions acquises. Dans un cadre inclusif, cette dynamique est généralement tolérée, car les gains sont plus diffus et les perdants peuvent parfois se reconvertir dans une économie plus ouverte. Dans un cadre extractif, l'innovation est souvent perçue comme une menace politique autant que qu'économique. De nouveaux secteurs peuvent créer de nouveaux acteurs, financer des oppositions, modifier l'information disponible et affaiblir les rentes. Les auteurs expliquent ainsi pourquoi certaines sociétés peuvent connaître des phases de croissance sans devenir vraiment inclusives. Notamment quand une élite autorise des changements limités tant qu'ils ne remettent pas en cause son contrôle. Mais ce type de croissance est fragile, car il rencontre tôt ou tard le blocage des intérêts en place, ou bien il se heurte à l'absence de garanties crédibles pour les investisseurs, les innovateurs et les citoyens. En reliant innovation et pouvoir, à l'ouvrage propose une lecture politique de la productivité et de la modernisation au lieu d'une explication purement technologique. En dernier lieu, contre les explications par la géographie, la culture ou l'ignorance. Acemoglu et Robinson passent en revue plusieurs familles d'explications populaires des écarts de richesse. La géographie et le climat peuvent influencer certaines contraintes. Mais ils ne suffisent pas à expliquer des divergences durables, notamment lorsque des régions comparables évoluent très différemment. Les arguments culturalistes sont également jugés trop vagues ou circulaires, car ils risquent de déduire la culture du résultat économique au lieu de l'expliquer. Enfin, l'hypothèse de l'ignorance des dirigeants est contestée, car même lorsque des solutions semblent connues. Des élites peuvent avoir des raisons rationnelles de ne pas les appliquer si elles menacent leur pouvoir. Le livre ne nie pas que ces facteurs existent, mais il les traite comme secondaires par rapport aux institutions, qui organisent les incitations, l'accès à l'éducation, la sécurité. L'investissement et la capacité à contester les décisions. Cette critique est importante car elle modifie la question pratique. Au lieu de demander quelle politique économique optimale adopter, les auteurs invitent à se demander qui décide, au bénéfice de qui et avec quel mécanisme de contrôle. Le déplacement du débat vers les règles du jeu permet d'analyser pourquoi des réformes similaires produisent des effets opposés selon le contexte institutionnel. En conclusion, pourquoi les nations échouent s'adresse aux lecteurs qui veulent comprendre les causes profondes de la prospérité et de la pauvreté au-delà des explications immédiates. Étudiants, chercheurs, décideurs publics, entrepreneurs ou citoyens intéressés par les trajectoires nationales y trouveront un cadre analytique puissant pour relier économie. Histoire et sciences politiques. Le bénéfice principal est intellectuel mais aussi pratique, le livre apprend à diagnostiquer les risques de capture, de rente et de blocage institutionnel derrière des débats qui semblent uniquement techniques, comme la fiscalité, la concurrence, la régulation ou la politique industrielle. L'ouvrage se distingue dans la littérature sur le développement par sa thèse unificatrice et par la place centrale accordée au pouvoir politique, plutôt que à une liste de recettes de politique économique. Là où beaucoup de livres opposent État et marché, Acemoglu et Robinson insistent sur la qualité des règles, sur État de droit, sur la responsabilité des gouvernants et sur la capacité d'une société à accepter la transformation économique. On peut discuter la simplicité de la distinction inclusif versus extractif, mais elle sert de boussole comparative et clarifie de nombreux cas, au final. Le livre se démarque par sa capacité à rendre une question mondiale lisible, sans promettre de solutions faciles, et en rappelant que la prospérité durable est autant une construction politique que économique. Si vous souhaitez soutenir Darren Acemoglu, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.